Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ancora a sinistro, Alex Del Piero. Riesce a guadagnare il pallone Milito. Principe Milito. Bocio è libero per il traversone pericoloso. Mare. Orsi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% foot italien. Je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Maier-Pacini. Salut Guillaume.
Salut Johan, bonjour tout le monde.
Alors Guillaume, aujourd'hui nous allons évoquer le titre de champion de l'Inter, évidemment. Alors, petite précision, on reviendra sur le Scudetto de l'Inter dans un prochain épisode, notamment le fameux épisode très attendu du 11 de la saison. Parce qu'on en parlait un petit peu avant de démarrer l'enregistrement, Guillaume, il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup de joueurs de l'Inter sur ce 11.
C'est compliqué, hein. J'invite d'ailleurs tous les auditeurs à s'imaginer, en attendant qu'on le fasse, toi et moi, Johan, le 11 de la saison de Serie A. Mais honnêtement, sur les 11 qu'on va avoir, il y a beaucoup de teintures bleu et noir parce que, voilà, et à tous les niveaux, Johan, hein, que ce soit du gardien aux attaquants, ouais, en passant par le milieu à défense, honnêtement, c'est compliqué.
Jusqu'à l'entraîneur.
La saison... Ouais, jusqu'à l'entraîneur, évidemment. Tant la saison était dominée par l'Inter. Donc, voilà, on va dire qu'on va faire le Scudetto de l'Inter en deux épisodes distincts.
Ouais.
Et aujourd'hui, Johan, on va plutôt parler du cycle qui pourrait s'ouvrir à l'Inter.
Et on fait ça donc dans l'ordre inverse des choses, puisqu'on va commencer par parler de la suite, avant de parler de ce qui s'est passé en Serie A, mais effectivement, on va essayer de voir si l'Inter peut ouvrir ce fameux cycle victorieux dans les mois et années à venir. Alors déjà, ce qu'il faut dire, Guillaume, c'est qu'en Serie A, on fait un petit rappel pour ceux qui ne sont pas forcément des énormes suiveurs, mais qui nous écoutent de temps en temps, c'est qu'on reste sur 5 titres consécutifs sans doublé, c'est-à-dire 5 vainqueurs différents consécutifs. On a eu la Juve, on a eu l'Inter, le Milan, le Napoli et l'Inter à nouveau. Donc à chaque fois, ça a changé de saison en saison. Ce qui veut dire que si l'Inter parvient à gagner le Scudetto la saison prochaine, je ne vais pas parler d'exploit, mais ça sera quand même une performance.
Exactement, exactement. Alors juste avant ces cinq-là, on avait une domination, Johan,
oui,
totale de la Juve pendant 10 ans, et ça avait été historique. Mais tu vois, De Laurentiis, le président du Napoli, on a parlé, je crois que c'était hier, hein, on enregistre, on est le vendredi 3 mai, donc le 2 mai, où il disait aujourd'hui, c'est quasiment utopique d'imaginer un champion sur deux saisons consécutives. Mm. À Naples, probablement, parce qu'on sait que c'est toujours compliqué sur sur la piazza de Naples, d'enchaîner deux titres de suite, hein, parce qu'au fond, finalement, le Napoli n'a que, entre guillemets, trois titres de champion. Mais c'est certain que ces dernières années, du moins, il y a une complexité, une difficulté à confirmer le statut. Et ce qu'on peut rajouter, Johan, c'est que les deux derniers champions, donc le Napoli la saison dernière et Milan il y a 2 ans, en plus de ne pas conserver leur titre, ils ont connu 2 saisons catastrophiques. On est sur le top 5 des pires champions, enfin des pires saisons post-champions de l'histoire du championnat. Donc, en plus de ne pas se confirmer, il y a vraiment eu des difficultés à maintenir un rendement de jeu, de résultats. Milan, post-champion, a fini cinquième avec la pénalité de la Juve et repassé quatrième et donc en C1. Et pour l'instant, le Napoli, Johan, on ne sait pas où ils vont en finir, mais ça va être très compliqué pour accrocher la C1. L'objectif, ça reste une place européenne pour poursuivre la série des dernières années. Mais en tout cas, il y a vraiment une difficulté à se confirmer et par le résultat et par le rendement du jeu.
Ce qui est drôle, Guillaume, c'est que j'avais vu ce qu'avait dit De Laurentiis hier soir en disant, c'était exactement ça, c'était illusoire de pouvoir penser que alors je pense qu'il le disait pour Naples, hein, il le disait pas de manière générale, de gagner 2 scudetti d'affilée. Mais quand tu reprends la conférence de presse avec Rudy Garcia, ce que j'ai fait, il expliquait, on espère réussir à répéter l'exploit en parlant du scudetto qu'il venait juste de gagner. Et il avait rajouté, moi j'espère arriver en finale de Ligue des Champions. Comme si 2 scudetti d'affilée, c'est compliqué, mais par contre, un scudetto et une finale de Ligue des Champions, tranquille, quoi. Non, ça fait un peu sourire quand même, mais bon, c'est le classique De Laurentiis, hein. C'est, on est un peu
Exactement.
habitué au personnage qu'il est. Guillaume, il y a pas mal de points pour essayer de voir si l'Inter peut réussir à répéter. Le fait de gagner un scudetto de manière durable. Le premier, je pense que c'est important de partir de l'effectif et pas simplement de la valeur de l'effectif, mais aussi de comment il est constitué. Et je regardais un petit peu tu sais, l'âge moyen des joueurs, parce que c'est très intéressant, parce que si tu as une équipe avec que des joueurs entre 30 et 35 ans, bah, tu sais très bien que d'ici 3 ou 4 ans, ou voire 2 ans, ça peut être un peu plus compliqué. L'Inter, si on prend la totalité des minutes jouées par les joueurs cette saison de Serie A, la moyenne d'âge de l'Inter, c'est 29,9 ans, pour ne pas dire 30, et c'est la moyenne la plus élevée en Serie A. Mais, là-dedans, il y a un mais, c'est que tu as aussi beaucoup de cadres qui sont, alors, dans la force de l'âge, mais on va le prendre assez large, c'est-à-dire entre 24 et 30 ans. Les Bastoni, Barella, Pavard, Lautaro, Thuram, Di Marco, tout ça c'est entre 24 et 28 ans. Çalhanoğlu, il a 30 ans et donc il a encore quand même au moins 2 saisons, on va dire, hein, Guillaume, ça peut être plus, hein, mais de haut niveau devant lui. Et si tu prends même les premiers remplaçants, quelques premiers remplaçants comme Fratesi et Carlos Augusto, les deux ont 24 et 25 ans. Donc, même si tu as des joueurs très expérimentés, type Acerbi, 36 ans, Yann Sommer, 35 ans, Khitaryan, 35 ans, Darmian, 34 ans, tu as quand même une très grosse base des titulaires qui a entre 24 et 29 ans, voire 30 ans pour Çalhanoğlu. Et donc, sur ce plan strictement là, l'effectif semble en capacité, Guillaume, de pouvoir répéter quand même des très bonnes saisons à haut niveau.
Déjà de confirmer au moins le titre, alors ce sera pas un cycle tu vois, d'une dizaine d'années évidemment, ce qui devient de plus en plus rare dans le foot aujourd'hui, mais tu vois, tu as parlé des titulaires, des remplaçants, même les recrues, ouais, on sait qu'il y en a deux pour l'instant qui sont officieuses mais quasiment officielles, c'est Militaremi, il a 31 ans, Piotr Zielinski, il a 29 ans, donc tu vois, même dans les recrues, on est quand même sur de l'immédiat. Ça veut dire que tu rajoutes deux joueurs qui sont prêts. Alors Zielinski, on avait parlé dans les précédents podcasts où voilà, on verra bien où est sa place, parce que c'est vrai que le milieu de l'Inter, pour le bouger, c'est compliqué. Les divers Barella, Çalhanoğlu, tu l'as dit, Mkhitaryan et d'autres. Mais voilà, on est sur, même dans le profil des recrues, je pense qu'il y aura même un attaquant qui va être recruté parce que Alexis Sanchez devrait partir. Arnautovic, on verra s'il continue. C'est aussi des joueurs voilà, qui sont plus eux. Voilà, notamment Sanchez, plus vers la fin de carrière. Mais en tout cas, les deux recrues, tu vois, on est quand même sur du profil de, on les intègre de suite. Ces deux profils, Taremi et Zielinski, qui peuvent apporter directement en arrivant à l'Inter la saison prochaine. Donc, voilà, l'objectif de l'Inter, c'est vraiment d'ouvrir un cycle sur quelques années. Alors, déjà, la saison prochaine, c'est confirmé. On l'a dit, ce serait déjà un exploit, mais ce serait déjà une nouveauté par rapport aux 5 derniers champions. Et c'est surtout aussi Johan, voilà, dans l'idée, ce que disait Marotta après le titre, c'est on n'est même pas à la moitié du cycle qu'on souhaite ouvrir. Il n'y a pas de deadline sur le cycle. C'est-à-dire que l'Inter aujourd'hui vit au jour le jour, parce qu'on parlera aussi un peu après peut-être des finances qui sont un peu complexes. Et ça fait aussi partie justement de cette possible ouverture de cycle. Mais si on parle que côté terrain, et comme tu l'as bien dit, on est sur quelque chose de voilà qui vit dans le présent, qui est déjà voilà, Inzaghi avait une machine en route qui est totalement différente de celle qu'avait Conte. Bastoni l'a raconté ces derniers jours, où il disait avant on avait un 3-5-2 statique, on est sur un 3-5-2 mobile, on est totalement sur quelque chose de nouveau, et en fait tous les joueurs qui vont arriver vont s'intégrer à cette formule là ça va prendre un peu de temps forcément, mais tu recrutes des joueurs intelligents, des joueurs prêts, des joueurs avec de l'expérience, donc forcément c'est plus simple pour les intégrer et pour se confirmer de suite. Tu vois, si on prend le mercato, par exemple, du Milan, il y a deux ans, quand ils prennent des Catellers, c'est un joueur, là, ça reste un jeune joueur, il y avait un gros investissement, hein, c'est 30 millions, mais ça restait mine de rien à Paris. Tu savais pas s'il allait pouvoir performer de suite, on l'a vu, ça n'a pas marché. Que là, l'Inter, vraiment, on a l'impression que l'équipe est lancée, que Inzaghi, on va en parler, est lancé aussi, et que les joueurs qui vont arriver seront capables d'apporter leur patte tout de suite. Donc vraiment, on a cette impression, peut-être plus qu'avec Naples et Milan, ces dernières saisons, que l'ouverture d'un cycle, en tout cas, côté terrain, est possible, du moins sur l'instant présent, sur l'année prochaine, et peut-être même dans deux ans.
Mais c'est toute la politique sportive du club, hein, autour de ce présent, ce qu'on appelle l'instant team, c'est-à-dire une équipe construite pour gagner immédiatement. Ce qui est parfois un peu dangereux, parce que si tu ne réussis pas à décrocher tes objectifs de manière immédiate, tu as pris des joueurs souvent qui sont un petit peu âgés, qui ont donc une moindre valeur à la revente, qui à l'inverse ont souvent un très gros salaire et donc la masse salariale est très élevée. Et quand tu ne réponds pas aux objectifs fixés, tu te retrouves un petit peu en difficulté. Type, on sait très bien qu'après Conte qui a fait venir plein de joueurs assez âgés, etc., tu pouvais te retrouver en difficulté à devoir gérer des Vidal, des Ashley Young, des Victor Moses, même si certains étaient en prêt. C'est toujours un peu à double tranchant, cette stratégie.
Et les salaires aussi, Johan. Hein. Les salaires qui vont avec ce genre de joueurs-là. Hein.
Ta masse salariale explose de manière
claire. Exactement.
Et on sait très bien d'ailleurs que la saison prochaine, après avoir baissé un petit peu, la masse salariale de l'Inter va réaugmenter. Et comme la Juve, a priori, est plutôt dans une politique d'économie de manière générale, donc au niveau de la masse salariale, l'Inter va repasser plus grosse masse salariale d'Italie, parce qu'effectivement, comme tu l'as très bien dit, les Zielinski et Taremi vont arriver dans une logique de grille salariale bien différente de jeunes joueurs qui peuvent être recrutés pour les développer, comme peut le faire, par exemple, l'autre club de Milan, mais d'autres clubs en Italie aussi. Juste un petit point, Guillaume, si on veut vraiment parler de, non pas simplement de la saison prochaine, mais tu sais, si on essaie de réfléchir à un cycle victorieux de 4-5 ans, par exemple, 3-4-5 ans, est-ce que tu penses pas qu'il faudrait aussi intégrer quelques joueurs entre 18-21, 18-22 ans, qui vont t'amener une certaine fraîcheur, une certaine dimension athlétique qu'ils sont capables aussi d'avoir à cet âge-là?
Écoute, c'est une possibilité, mais je sais pas toi, en tout cas, moi, je la lis très peu. En tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit envisagé de manière immédiate. On connaît aussi, Johan, les cibles de Marotta, généralement. C'est pas trop ce profil-là. Je sais pas. Honnêtement, je suis pas certain que ce soit dans la politique immédiate de l'Inter qui est sur cette volonté d'ouvrir un cycle. Après, tu peux avoir un socle solide, ça, c'est sûr. Et ajouter quelques retouches ici et là plus jeunes pour les former justement, comme par exemple dans l'idée, tu vois, t'as Sommer quand même qui est en fin de voilà qui est arrivé l'année dernière, mais voilà qui a 36 ans, qui est quand même plus âgé et qui a peut-être faire sa dernière saison l'année prochaine. Pourquoi pas lui associer un gardien plus jeune, tu vois, pour le faire grandir à ses côtés ou dans l'idée là. Mais en fait, j'ai du mal à imaginer des joueurs de 18-19 ans débarquer. J'ai l'impression que c'est pas du tout la politique de l'Inter pour l'instant, peut-être un peu plus âgé dans les 22-23 ans, mais on est quand même.
Tu vois, Guillaume, parce que quand je regarde le secteur défensif, si on voit vraiment, tu vois, on essaie de cibler un secteur. Le secteur défensif, tu as Acerbi 36, donc aura 37 la saison prochaine. Darmian qui a 34, qui va bientôt avoir 35. Bon, Sommer qui a 35, mais le poste de gardien peut être un petit peu différent. De Vrij qui a 32, qui aura 33. Et Pavard et Dumfries qui auront 29 ans la saison prochaine. Est-ce que on peut pas imaginer, alors ils ont Bissek qui a 23 ans et qui peut être, on verra comment il se développe lui, mais 23 ans c'est pas non plus jeune hein, pour un joueur. Est-ce que notamment sur la charnière centrale, quand tu vois Acerbi, De Vrij, qui sont deux des options principales, il peut pas y avoir un petit quelque chose de fait autour d'un joueur de, tu sais, de 17, 18, 19 ans qui va en plus progresser au contact de ces mecs-là?
Moi, je pense que l'idée est bonne parce que tu as des gens quand même d'expérience et qui ont maintenant un certain palmarès. Hein, parce qu'on parle du Scudetto de l'Inter, mais depuis qu'ils avaient y arrivé, alors c'était voilà, la seule chose qui lui manquait. Mais on parle pas des Coupes d'Italie, des Super Coupes d'Italie, de la finale de C1, hein, voilà, de plein de choses. Hein, donc au-delà de tout ça, c'est des joueurs qui peuvent apporter beaucoup et qui peuvent donner justement le relais de tout ça. Après, tu vois, dans l'idée, imaginons, ouais, de recruter un défenseur, je pense plus que l'Inter irait vers un joueur comme Buongiorno, tu vois, au Toro, qui n'a pas 18 ans, mais qui est jeune et justement quand même à l'avenir devant lui, mais déjà formé, parce que c'est quand même le capitaine du Toro, du coup, il est déjà prêt. Mais je ne vois pas l'Inter aller miser sur un joueur à faire grandir, à polir. Voilà, j'ai plus de mal à imaginer ça parce que j'ai l'impression que ce n'est pas la politique instantanée du club. Après, est-ce qu'elle changera en fonction de ce qui se passera dans les prochaines années? Peut-être. Mais on est quand même sur de l'instant team pour l'instant, et encore c'est l'instant team sur 2-3 ans, parce que Çalhanoğlu, tu l'as dit, encore plusieurs années, Lautaro, Thuram, genre, voilà, il y a encore beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont voilà, un avenir assez sur le moyen long terme. Mais voilà, j'ai allé chercher des profils très jeunes, même à l'étranger, ou voilà, j'ai peut-être un peu plus de mal à imaginer ça, même si l'idée de le faire et de coller ce genre de profil-là à des joueurs d'expérience comme tu l'as dit, hein, comme Acerbi et d'autres, même De Vrij, je trouve que l'idée, pour le coup, serait assez intéressante. Mais dis-moi si je me trompe. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai très peu lu.
Ouais.
Moi, même dans les pistes qui sont envisagées pour cet été. Hein.
Ah non,
Voilà,
je suis tout à fait d'accord avec toi.
voilà, je ne sais pas quel âge, je vais vérifier en direct, quel âge a le gardien Bento que l'Inter veut. Je vais vérifier. Si tu peux meubler en attendant, le
Oui,
gardien
je
brésilien.
peux tout à fait meubler, même te dire qu'il est né en 99 et il a 24
Ah!
ans, il va avoir
Bah
25.
voilà, tu vois, dans l'idée, ils cherchent même pas un gardien très très jeune. Voilà, on est quand même sur des joueurs qui sont toujours entre, voilà, qui ont au moins 22-23 ans. C'est rare de voir un joueur de 19-20 ans. Parce que aussi, Johan, il faut le dire, l'Inter, Marotta, Ausilio, les autres, sont aussi conscients de la complexité que représente le championnat italien, le temps qu'il faut pour, voilà, pour s'intégrer à certaines choses, la pression d'une place comme l'Inter, plein de choses. Donc, il y a aussi ces facteurs-là qui rentrent en compte. Et pour le coup, l'Inter, Johan, si on y pense, dans les équipes de tête, souvent dans les grands clubs, c'est quasiment l'un des derniers à utiliser ce modèle-là, mine de rien. Parce que la Juve, tu l'as dit, est quand même sur un nouveau modèle, ou du moins de rajeunir l'effectif et avoir une masse salariale à la baisse. Milan-Naples, ça fait quand même maintenant quelques saisons qu'il y a eu cette volonté de, voilà, de miser plus sur la jeunesse et de former des joueurs. La Roma, la Lazio, c'est encore assez compliqué parce qu'on est un niveau en dessous. Là, on parle que des champions. Donc, tu vois, l'Inter, pour le coup, est quasiment unique en ce genre dans ce modèle-là, du moins dans les équipes de tête.
Je suis en train de vérifier même au niveau européen où se situe l'Inter.
Par rapport à la moyenne d'âge?
Sache que c'est la deuxième équipe la plus vieille des quatre grands championnats européens
Voilà,
plus
tu
Ligue 1.
vois.
Et ils sont à égalité notamment avec l'Atlético de Madrid, qui a aussi une moyenne de 29,9. Mais si tu dois chercher des vrais, en dehors de l'Atlético, qui est plus ou moins un vrai contender pour gagner, tu tombes après au Bayern, qui a 28,3. Le Real qui a 28,2 et si je descends encore un peu, Dortmund est à 27,7 dans leur championnat donc
Il y a vraiment cette notion de vouloir performer maintenant, hein. Même, voilà,
ouais.
même dans les recrues, c'est, voilà, comme on le disait, c'est pas moins de 22-23 ans, quoi. On n'est pas du
Autre
tout sur des
non,
projets
même si
très,
moi
très, très jeunes.
je pense que ça serait bien, tu vois, je prends un nom comme ça, mais c'est pas pour le nom, mais c'est juste pour le profil, en quelque sorte, c'est un Dinhuizen, par exemple. Tu vois, un jeune joueur de cette qualité-là, je me dis que l'Inter pourrait avoir ce type de joueur qui a un très gros potentiel, qui pourrait être développé, je le répète encore une fois, avec des défenseurs qui sont très forts sur le marquage pur, le duel, l'anticipation comme à Tcherbi, un autre type de joueur qui est très important dans l'élaboration du jeu, dans la construction du jeu, dans le fait d'avancer ballon au pied comme Bastoni, sur la polyvalence comme Benjamin Pavard. Tu vois, il y a aussi pas mal de profils qui peuvent aider un jeune joueur à
Et en
progresser.
plus, l'Inter, Johan, a quand même une Primavera qui performe
Oui.
depuis quelques années maintenant. Donc, toi, je sais qu'un joueur comme Cazadei, c'est un joueur que tu
Bah,
avais suivi depuis
Cazadei et
longtemps.
Fabian, moi, ça m'a
Voilà.
déprimé.
Et c'est des joueurs qui auraient pu aussi, tu vois, avoir même du temps de jeu en équipe première ces dernières années. Et après, l'Inter, voilà, elle a vendu à un certain prix, hein, Cazadei à Chelsea, donc c'était une certaine somme. Et il y a comme cette nécessité aussi de recevoir de l'argent et remplir un peu les caisses. Mais, voilà, même au niveau de la Primavera, tu vois, on voit pas une volonté claire d'intégrer les joueurs à l'équipe première. On préfère
Non,
recruter ailleurs.
la passerelle, elle existe quasiment pas.
Voilà, donc, bah, c'est pour ça que je dis que j'ai pas l'impression que l'Inter veuille miser sur vraiment des profils très jeunes. Et des profils jeunes, oui, mais quand même avec un certain âge de base et avec une certaine expérience pour performer de suite.
Un autre élément, Guillaume, à prendre en compte pour toujours cette idée, cette installation d'un cycle victorieux, l'entraîneur qui devrait
Eh
s'installer,
oui, eh
lui.
oui.
Voilà, il y a une certaine continuité du côté de l'Inter, avec maintenant un entraîneur parfaitement établi dans son environnement, qui a fait taire pas mal de critiques, hein, Guillaume, liées notamment à la saison passée, cette irrégularité en championnat, notamment sur les moments un peu clés de février-mars, où il y avait quelques matchs qui n'étaient pas d'une très grande qualité, matchs et résultats d'ailleurs. C'est vraiment un élément fondamental pour cette projection à plusieurs années d'avoir un entraîneur qui maîtrise tout, qui a l'absolue confiance de ses dirigeants, l'absolue confiance de son groupe et qui a réussi à montrer, et ça c'est important je pense pour toujours dans cette idée de cycle, qu'il est capable d'évoluer toujours dans ce qu'il aime, ce en quoi il croit, mais avec une forte capacité d'adaptation et d'évolution.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Exactement. Et surtout, il y a vraiment une adhésion totale, Johan, de tout le monde. Hein, on l'a vu, alors, déjà des supporters maintenant. Il y a aussi maintenant, il a gagné cette légitimité. On ne pourra plus lui reprocher à Johan de ne pas avoir gagné le titre. C'était un peu ce qui lui pesait depuis quelques années parce que Simone Inzaghi, voilà, je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, mais il y a quand même un palmarès qui parle pour lui, même à la Lazio, hein,
Ah
où il avait
oui.
gagné Coupe et Super Coupe. Donc, on est quand même sur un entraîneur qui performe depuis des années et surtout qui donne une identité précise à ses joueurs. Et ces joueurs s'éclatent dans ce modèle-là, ils se plaisent. Voilà, j'invite tout le monde. Alors, ceux qui parlent italien, allez à l'interview de Bastoni, mais
Oui.
il expliquait parfaitement ce qui était l'entraînement sous Inzaghi, le schéma de jeu sous Inzaghi, la différence de schéma entre côté Inzaghi, où vraiment il disait que chaque joueur sait ce qu'il doit faire à tel moment du match. Il y a vraiment une osmose, c'est écrit entre les joueurs et Inzaghi. Et c'est pour ça que justement, au-delà de la politique de recrutement, au-delà de la moyenne d'âge, il y a vraiment une symbiose totale entre les joueurs et Inzaghi. Donc, c'est pour ça qu'un cycle peut s'ouvrir. C'est parce que Inzaghi a aussi les ressources. Je me souviens, tu en avais un peu parlé dans un podcast précédent, on avait parlé de son profil. Mais Simone Inzaghi, c'est quelqu'un qui est en éveil. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup. C'est quelqu'un qui n'est pas arrêté sur ses idées. Et je trouve que cette saison, vraiment, il a progressé dans la gestion des matchs, dans la gestion des moments aussi de la saison, dans les changements aussi. On le voit moins nerveux, même en conférence de presse, hein, Johan, où on le voit plus s'éparpiller sur les arbitres, sur la météo, sur le temps. On a quand même un entraîneur qui est focus. Et qui a parfaitement géré une saison du début à la fin. Et je pense qu'il va s'en servir maintenant pour justement ouvrir un cycle avec l'Inter. Donc voilà, il y a pour tous ces ensembles, enfin tout cet ensemble de choses, Voilà, je pense que l'Inter est prête à ouvrir un cycle avec Inzaghi parce que son avenir aurait pu être incertain, Johan, parce que bah, il a quand même une cote qui s'est faite sur le mercato. On sait que ça va un peu bouger cet été un peu partout en Europe, mais voilà, de ce qui se dit en Italie, c'est qu'il devrait prolonger et que l'Inter veut absolument le garder. Donc, quand Marotta disait on n'est même pas à la moitié du cycle, il parlait aussi de Simone Inzaghi ou même au niveau des dirigeants. Zanetti, Auzi, Lio Marotta, voilà, il y a une unanimité, pardon, je vais y arriver, une unanimité totale pour lui. Donc voilà, je trouve vraiment que Simone Inzaghi est la personne adéquate et l'entraîneur parfait dans cette volonté d'ouvrir un cycle côté Inter.
Et cette évolution a fait tomber un peu de rigidité chez lui. Je sais pas si c'est des croyances qu'il avait ou, mais en tout cas, moi, je suis vraiment fan de son évolution récente et de cette capacité à voir ce qui se fait ailleurs en Europe et de prendre les bonnes choses, de réfléchir, de les essayer, de quelque chose qui est difficile parce que les joueurs, quand ils voient un entraîneur, le premier truc qu'ils font, c'est bah, regarder s'il est cohérent. Cohérent dans ses choix, cohérent dans sa communication, cohérent dans ce qu'il demande et ce qu'il met en place. Et l'adhésion des joueurs à cette évolution-là me semble très intéressante. Et le fait de continuer avec lui me semble tout à fait logique parce qu'on a vite senti quand même cette saison que. Les joueurs avaient réussi à se mettre dans ce que cherchait à faire Inzaghi et qui n'était pas toujours évident, c'est-à-dire oublier les cas individuels et vraiment se focaliser sur le collectif. Et tu te souviens, l'année dernière, on voyait beaucoup de nervosité entre joueurs, entre. Bon, Barella est vraiment un. Comment le dire de manière non vulgaire? C'est vrai qu'il est un peu. Guillaume, tu as un mot qui te vient? Un peu. C'est pas ennuyeux, mais un peu casse-bonbon, voilà. Et que avec les coéquipiers, c'est parfois un peu difficile. Mais tu te souviens tous ces gestes entre Lukaku et Onana ou Dzeko et Onana, entre Barella et
Nervosité.
Çalhanoğlu, toutes ces considérations un peu personnelles ont été transformées en une vraie force collective où tout le monde s'entraidait. On a vu très peu de joueurs élever la voix, je trouve, cette saison par rapport à la saison précédente. Et c'est aussi, je pense, parce que Inzaghi a réussi à transférer cette volonté d'être tous derrière un projet commun. Et il faudra voir, et c'est là où c'est peut-être un peu difficile pour un entraîneur, c'est qu'une fois que tu as gagné, essayer de regagner à nouveau n'est jamais la même chose que de gagner pour la première fois. Alors, il y a des joueurs qui avaient
Totalement.
déjà été champions avec Conte, mais tu ne peux pas avoir la même motivation ou le même degré, le même pourcentage de motivation. Quand c'est simplement regagner par rapport à, après plusieurs années, nous devons à nouveau gagner.
Deux
Et
choses,
donc,
Johan.
c'est là-dessus qu'on attend aussi Simone Inzaghi.
Deux choses. Il y a eu aussi, je trouve, un poste final de C1 où ça a donné de la légitimité à Inzaghi, même par rapport à son vestiaire. Et on rappelle quand même que l'Inter était à deux doigts de battre City en finale. Et je trouve que même, tu sais, sur la conviction personnelle, la confiance que ce groupe a pris et que même Inzaghi a pris en lui, je trouve quand même qu'il y a eu une différence après cette finale-là. Et on l'a vu cette saison. Et la deuxième chose, c'est que Inzaghi, qui aurait pu imaginer quand même quand l'Inter a recruté des divers Acerbi, Darmian, Di Marco, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Inzaghi a valorisé tous ses joueurs, valorisé, relancé. On peut prendre le terme que vous voulez, mais Acerbi à Lazio, c'était quand même pas du tout ce niveau-là. Darmian, voilà, c'était un bon joueur, mais c'était pas non plus un cadre. Di Marco, il arrivait de plusieurs prêts et personne n'aurait pu imaginer qu'il atteigne cette dimension-là. Lautaro a progressé aussi sous Inzaghi. Çalhanoğlu est devenu l'un des meilleurs milieux en Europe. Il a passé la barre des 10 buts de cette saison. Enfin, voilà, tous les joueurs sous Inzaghi ont été valorisés. Et ça, vraiment, la patte de l'entraîneur, tu la vois aussi sur cet aspect-là. Faire progresser tes joueurs, c'est pas tous les coachs qui peuvent te le faire. Donc, voilà, Inzaghi est parvenu quand même à faire des choses avec ce groupe de joueurs-là que je pense qu'un autre coach n'aurait pas forcément réussi. Parce que si tu prends le groupe intrinsèque de l'Inter, voilà, valoriser certains joueurs comme lui l'a fait, honnêtement, c'était quand même pas évident.
J'ai encore deux petits éléments que Guillaume a évoqués. Le premier, tu avais commencé d'ailleurs toi-même à l'évoquer, c'est l'aspect économique et financier ou l'aspect stabilité des propriétaires de l'Inter. On le sait, c'est un peu compliqué avec Suning et la famille Zhang. On n'est pas sur des propriétaires pouvant injecter des centaines de millions d'euros. Ils l'ont fait par le passé, mais 2020 et le Covid sont passés par là, et donc ça a été un petit peu plus, voire même beaucoup plus délicat. Néanmoins, là où, tu sais, au mois de septembre-octobre, tout le monde commence à dire, ils n'auront pas le choix, ils devront vendre. Et là, on s'achemine plutôt vers un prêt, un nouveau prêt. Alors, soit un prêt, soit avec Oaktree qui lâche pas l'affaire. Reculer l'échéance du remboursement de ce fameux prêt ou de renégocier et de le reformuler autrement avec un nouvel apport cash. Mais en tout cas, les Zhang devraient, Zhang slash Suning, devraient rester à la tête de l'Inter. Et ça aussi, c'est important, c'est que dans le moment où ça a un petit peu tangué sur le plan économique, les dirigeants, et grâce notamment à la figure de BP Marotta, ont vraiment protégé le
Absolument.
groupe.
Parce qu'on ne le voyait plus de Zhang, hein, et il ne pouvait plus revenir à Milan. Hein. C'est ce qui était un peu dit dans la presse. Donc, il y avait vraiment une grosse inconnue autour de la question du propriétaire. Et voilà, on sait que l'Inter est en délicatesse avec ses économies. Donc, il y a eu une vraie question qui dure maintenant depuis des années autour de la figure de Steven Zhang et surtout de Suning. Voilà, aujourd'hui, on sent que ça va. Il a trouvé un moyen de rester à la tête de l'Inter et rembourser ce fameux prêt pour l'instant, mais en tout cas, voilà, l'Inter a été aussi très forte pour se mettre un peu dans sa bulle et faire abstraction de tout ça, mais forcément que le propriétaire, sa pérennité font partie de cette possible ouverture de cycle. Sans ça, sans un propriétaire solide, ça reste compliqué d'imaginer, voilà, pouvoir ouvrir un cycle sur 4-5 ans. Donc, sans un propriétaire fort, c'est compliqué d'avoir une équipe forte. Donc, l'inconnu qui peut régner autour de Steven Zhang, qui a été un peu levé ces dernières semaines avec ce nouveau prêt qui sera contacté, donne un peu plus de perspective sur le futur, on va dire, Johan, à court terme, plus qu'à moyen, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça pourra durer. Mais voilà, peut-être qu'encore 2 ans, 3 ans, voilà, faudra
Déjà,
voir, mais en tout cas,
faisons un an déjà.
voilà, exactement. On va déjà voir ce qui va se passer l'an prochain. Mais en tout cas, le fait que Steven Zhang soit parvenu à rester à la tête de l'Inter, même au niveau des joueurs, du groupe, du vestiaire, de l'équipe, ça apporte quand même une certaine continuité pour la saison prochaine.
Tout dernier élément, Guillaume, parce que c'est impossible d'imaginer un cercle, un cycle, ou un cercle, peu importe, un cycle plutôt victorieux de l'Inter. Sans parler des adversaires, parce que tu fais toujours un rapport de force avec tes concurrents, quand on parle de lutte pour des objectifs et des luttes pour le Scudetto. Et là, c'est aussi un élément qui va en faveur de l'Inter. C'est que dans la structure des adversaires, il y a plusieurs clubs qui sont sur des mouvements importants. On a le Milan qui va changer d'entraîneur, la Juve peut-être aussi, avec une nouvelle politique plus raisonnable sur le plan économique. Évidemment, après, tout ce qui est Roma est plus loin, un peu plus loin. Le Napoli a fait n'importe quoi et donc repartira sans doute sur un nouveau projet. La Lazio vient de changer de coach. Donc finalement, tu es quand même plutôt pas mal installé par rapport à tes concurrents directs.
Bah, c'est surtout le fait que tout le monde a quasiment changé de coach. Donc, Juve, Milan, Napoli. Alors, je dis pas que tu repars de zéro, mais il y a quand même, il va y avoir un certain nombre d'adaptations. Il faudra avoir le profil qui sera choisi, le recrutement qui sera fait, la volonté des nouveaux entraîneurs. Donc, forcément, si on prenait les principaux rivaux dans l'idée, ça aurait été Milan, Juve, Naples. Et pendant que l'Inter va pouvoir a déjà bouclé de recrues, comme on l'a dit, Taremi Zielinski, va pouvoir continuer avec Inzaghi, va pouvoir poursuivre ce projet-là, alors que les autres équipes font démarrer quelque chose de nouveau, ça te donne quand même un temps d'avance, Johan, assez conséquent. Je dis pas, on va dire, si on prend une métaphore avec la F1, je dis pas que l'Inter a un tour d'avance, que ça ferait beaucoup, mais il y a quand même, voilà, on va dire un bon pit stop d'avance par rapport à la concurrence. Donc forcément, pendant que tout le monde, et on le voit, Yoann, en ce moment, hein, même dans la ville, hein, de l'autre côté de la ville, avec l'AC Milan qui est en plein doute sur le choix du coach, sur le projet à mener, Naples qui ne sait pas quel coach prendre, la Juve qui hésite encore avec Allegri. Donc, pendant tout ça, bah, l'Inter va vivre tranquillement sa fin de saison, pouvoir démarrer la prochaine avec deux recrues. Et c'est vrai que ça donne quand même un temps d'avance assez énorme sur la concurrence. Donc, forcément, ça aussi, ça va pouvoir t'aider à te confirmer à la tête du championnat la saison prochaine.
Et donc, la toute dernière chose, Guillaume, est-ce que tu penses que l'Inter est capable d'ouvrir un cycle victorieux? Et si oui, je vais te demander une tranche de saison, de nombre de saisons.
Écoute, je pense que l'Inter sera encore champion l'année prochaine. Il faut se mouiller, ouais,
Oh oui,
d'accord.
bien sûr.
Eh bien, écoute, je pense que l'Inter parviendra à confirmer son titre la saison prochaine. Et si je devais te donner une fourchette, je te dirais un cycle de. Allez. Peut-être encore 2, 3 années.
Ah,
Allez.
c'est marrant, on est exactement sur la même chose.
Ah, toi, il est pareil. Et on ne
Ouais.
s'est pas concerté avant, hein, disons.
Non, du tout, du tout. Je savais même pas que j'allais l'évoquer, c'est que j'ai juste d'y penser d'ailleurs, pendant le déroulé du podcast. Mais j'imagine aussi l'Inter faire le doublé et donc gagner le Scudetto la saison prochaine. Et d'être capable encore pendant au moins une saison d'être le club dominant en Serie A. Et après, il y a toujours ce qui va se passer au niveau des propriétaires qui peut influer de manière positive ou négative. Et donc, on ne peut pas forcément se projeter beaucoup plus loin. Guillaume, merci pour ce nouveau podcast. On rappelle
Merci, Johan.
les petites étoiles, Spotify, Apple
Évidemment.
Podcast, le partage.
Les 5 étoiles, les commentaires, même les mots, Johan, hein, en parler à ses voisins, à ses amis, à ses collègues. Voilà, ça donne de la force pour nous, pour le podcast. Et évidemment, les notes 5 étoiles. Ça prend 5-10 secondes, un petit commentaire si vous avez le temps.
Ouais.
Mais voilà, ça donne de la force. Et les plateformes, Johan, rappelez-moi. Alors, il y a
Ah,
Apple,
il y a
Spotify,
Apple
ouais.
Podcast, Spotify, Deezer, et puis après, il y a toutes les possibilités liées notamment au flux RSS du podcast qu'on retrouve facilement.
On est
Mais
partout.
on n'est pas. Voilà, exactement. C'est le plus simple à retenir, c'est exactement ça. Et puis, n'oubliez pas d'aller faire un tour aussi sur calcioepp.shop. Merci beaucoup, Guillaume, et on se dit à très vite pour un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé. Ciao, ciao.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.